Bonjour et bienvenue dans Nostalgique. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'un de mes jeux préférés sur ma console préférée. Probablement ma console de cœur, la Nintendo 64. Cette console était extrêmement bien fournie en FPS, et donc je vais vous parler d'un platformer 3D. Je dois vous faire un aveu, je suis un gros fan de Nintendo. Mais bien que j'en ai essayé beaucoup, je n'ai aucune affinité avec les Mario, ni même les platformers en général. Et j'ai beau savoir que Mario 64 est une révolution, un excellent jeu, une mine d'innovation, je l'aime pas. Je trouve l'univers de Mario fade en général, et encore plus particulièrement celui-ci. Vous aurez donc compris que je compte plutôt parler d'un jeu considéré comme son successeur spirituel, et comme un chef-d'œuvre de Rare, qui en a d'ailleurs produit beaucoup pour la Nintendo 64, Banjo-Kazooie. Pour moi, c'est clairement un membre de mon top 5 Nintendo 64. Et pourtant, elle regorge de chefs-d'œuvre chers à mon cœur. Mais ce jeu m'a fait aimer la plateforme 3D, et ils sont rares à pouvoir s'en vanter tant j'ai une nette préférence pour la 2D dans ce domaine. Et puis, j'ai une histoire avec ce jeu. Beaucoup d'excellents souvenirs y sont attachés. Je vous raconte ? Question rhétorique, bien sûr que je vais vous raconter, c'est ma chronique après tout. Bref, tout cela nous ramène à l'été 98. Une très belle année pour le jeu vidéo, soit dit en passant. Les vacances débutaient à peine, et mon meilleur ami et futur témoin, grand fan de platformer, avait réussi à me hyper sur un jeu qui allait juste sortir, et qu'il attendait de pied ferme. Lui et le magazine X64 aussi. Bref, ainsi hypé, nous avons été dans notre magasin préféré, Un Monde Meilleur, vous savez, je vous en ai déjà parlé, pour acquérir nos deux exemplaires de Banjo-Kazooie. Aussitôt revenu chez ma grand-mère où je passais mes vacances, on s'est rué sur la console pour jouer ensemble. Le soir venu, on continuait à jouer chacun chez soi, et le lendemain, on faisait le point. Très vite, mon pote a pris de l'avance et m'a aidé à progresser dans l'aventure. Comme je l'ai dit, il est fan de ce genre de jeu, contrairement à moi, et évidemment, il l'a terminé à 100%. Donc, le lendemain matin, je le vois arriver, sa cartouche dans la poche pour m'asséner le coup de grâce, la vidéo secrète de fin de jeu. Dans cette vidéo, on voit l'île de l'abbé devenir un volcan et révéler une grotte. La clé de glace est accessible et la porte du niveau désertique qui s'ouvre enfin, révélant leurs secrets et d'étranges œufs colorés. Mais bien sûr, tout cela ne serait pas jouable avant le prochain jeu, ce qui envoyait directement un gros niveau de hypage pour les gosses que nous étions. Malheureusement, la suite n'a pas pris la forme prévue à l'origine et ce système nommé Stop and Swap a été abandonné, et ses secrets resteront inexplorés. Ce qui est putain de frustrant. Putain, les développeurs ou programmeurs à l'avenir, quand vous avez ce genre d'idée, menez-la jusqu'au bout ou fermez votre gueule. La frustration digérée, j'ai tout de même fini le jeu, mais pas à 100%. Une unique pièce de puzzle me résiste encore. Bon, et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de si particulier ce jeu ? Je vais vous répondre, mais pas seul. Je serai accompagné du gosse de 13 ans, qui a découvert ce jeu en 98, et de mon fils de 4 ans, qui a découvert ce jeu en 2019, 21 ans plus tard, mais qui a déjà testé la PS3 et la 3DS. Bien sûr, c'est moi le nostalgique de 34 ans qui met tout cela en forme. Avant cela, on va s'écouter un peu de musique. Alors, qu'en avons-nous pensé ? Première impression de mon fils, ou du moi de 13 ans, putain c'est beau. C'est très coloré, c'est ultra enfantin, mais ça marche à mort. Pour tout dire, mon fiston a adoré dès le gros N de Nintendo. L'univers enfantin est très mignon, très sympathique et agréable à parcourir. Quand ils entrent dans un niveau, les enfants ont tous deux très envie de le découvrir, de l'explorer, même si mon fils a un peu plus de mal à appréhender la 3D et à dompter cette étrange manette, alors que j'y étais déjà accro, et que les nombreuses manipulations du jeu, se basant sur la gâchette Z, sont d'une exécution parfaite. Le côté enfantin est grandement renforcé par l'absence de voix, les personnages s'exprimant par sonorité. Le mauvais côté, c'est qu'il faut savoir lire pour bien comprendre, donc ce n'est pas si adapté aux enfants, même si cela a beaucoup fait rire, mon petit gars. Surtout le capitaine Hippo qui s'exprime en rotant. Au niveau sonore, j'ai beaucoup aimé les musiques, alors qu'elles ne lui font ni chaud ni froid. Au final, après quelques premières minutes de prise en main assez laborieuse, mon petit bonhomme s'est très bien débrouillé. Il a pris un réel plaisir à découvrir les deux premiers niveaux, et il a eu un peu peur du requin dans la baie des pirates, ce qui est voulu, mais dans l'ensemble, il s'est beaucoup amusé. Accompli quelques objectifs seuls, il a trouvé que le jeu était bon, mais un peu dur, alors que le mois de 98 a trouvé la difficulté parfaite du début à la fin. Si je résume pour l'ado de 1998 et l'enfant de 2019, ce jeu est un très bon jeu qui fonctionne sur presque tous les niveaux. Donc la cible jeune est parfaitement atteinte, malgré que le jeu soit clairement trop dur pour un enfant et que les dialogues soient inaccessibles pour les plus petits. Maintenant il reste l'épreuve du temps. Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui, vieux geek et jeune papa de 34 ans? Tout d'abord, je suis heureux que ce soit un jeu que je puisse partager avec mon fils, et j'ai hâte de l'essayer avec ma fille. Ceci dit, je vais faire un petit débrief général, puis niveau par niveau. D'un point de vue général, je trouve le jeu toujours plaisant à voir et à parcourir. J'aime beaucoup la maniabilité et le gameplay aux petits oignons. Je trouve également que les objectifs sont clairs et le nombre de collectibles raisonnable. Il y en a beaucoup, mais c'est assez simple de les voir, les différencier et de nettoyer un niveau. Et surtout, le château de la sorcière qui nous sert de hub n'est pas trop labyrinthique. En gros, tout ce que je reproche à Mario 64 est gommé ici. On peut poncer les niveaux d'une traite. Pour pinailler un peu, je trouve les phases de nage ou de vol un peu laborieuses. Mais j'ai toujours eu du mal avec ça. Et il y a une putain de pièce de puzzle qui me résiste encore. Ça me rend fou, là, la pièce dans le marais, où faut faire un concours de celui qui bouffe le plus de... Je sais pas comment ça s'appelle. Le plus de petites bestioles, la plus vite que le croco, là, j'y arriverai jamais à ce truc-là, définitivement. Et ça me frustre aussi. À part ça, je pense que la difficulté est parfaite. Elle augmente progressivement et ne nous écœure pas d'un coup. On a une résistance, mais on passe toujours au-dessus avant de lancer la manette. J'adore toujours autant ce jeu. Pour moi, il s'agit d'un chef-d'œuvre, voilà, c'est dit. Entrons, si vous le voulez bien, dans le détail. Premier pas à l'extérieur du repère de Grunty. Ça a été laborieux, 2 minutes, puis tout est revenu. Un très bon tuto déguisé, on se familiarise avec les mouvements et on gagne même une alvéole de vie supplémentaire. C'est joli mais sans plus. On se dirige très vite vers le repère et on se lance à l'assaut. Le repère est très agréable à parcourir. Grand mais sans être trop tortueux. L'entrée de chaque niveau est très belle et les tableaux bien mis en valeur. L'environnement s'adapte aux thématiques des niveaux à proximité. Bon, là il y a un truc qui me gêne mais c'est de la mauvaise foi. Dès l'entrée, il y a une pièce de puzzle qui nous permet d'ouvrir le premier monde. Donc Grunty à des portes verrouillées par des notes de musique disséminées dans les montres, eux-mêmes fermées par des pièces de puzzle, un système hermétique et impénétrable. Sauf si on laisse négligemment traîner une pièce de puzzle juste à l'entrée. Et là, c'est comme la maille du pull qui s'en va, tout fout le camp, on se retrouve à poil. Bon, une fois cette énormité digérée, on attaque le premier niveau, la montagne de Mumbo. On est en plein dans un niveau de découverte. Petit, sur à peine 2 niveaux, les objectifs sont clairs et on se familiarise très vite avec l'environnement et les différents collectibles. On y rencontre Mumbo pour la première fois et il nous transforme en termite. Une fois le niveau poncé, on peut se rendre à Treasure Trove Cove, un grand niveau tout en verticalité, principalement construit autour du vol et de la hauteur. Tout plongeon dans les eaux du lagon est sanctionné par l'apparition d'un grand requin opiniâtre. Une fois le plancher des vaches retrouvé, on se dirige vers la caverne de Clanker, le premier niveau véritablement aquatique. C'est un niveau assez petit, axé sur la profondeur et la nage. Au centre de cette cuvette trône, sans mauvais jeu de mots, un énorme et sympathique requin mécanique. Ce niveau, de par sa thématique aquatique, offre les premières vraies résistances et les moments de stress. Une fois notre duo ébroué, nous nous dirigeons vers le marais moisi. Ce niveau est constitué de nombreux petits îlots et de non moins nombreux mini-jeux dont un est le seul obstacle entre moi et cette putain de dernière pièce de puzzle. On rencontre encore Mambo qui va nous transformer en croco, ce qui est bien pratique dans ces marais. Après tous ces milieux, c'est avec grand plaisir que nos deux protagonistes se dirigent vers le désert du Sphinx. C'est un grand niveau, plein de cachettes et de lieux explorés, eux-mêmes remplis d'énigmes. Il utilise à la fois la verticalité et le vol, et aussi l'exploration de nombreux petits lieux. Attention au chaud-froid, on enchaîne direct avec le pic gelé, le niveau enneigé tant attendu. Ce niveau est aussi structuré sur la verticalité et sur les glissades. Après s'être habitué à la dynamique du duo, cela occasionne des petites difficultés et nous donne à affiner notre prise en main. Les adversaires commencent à être plus retors et les pièces de puzzle un peu moins accessibles. Une fois les frimes à passer, c'est une autre chair de poule qui nous attend, celle provoquée par le Mad Monster Mansion et son énorme fantôme. Nous sommes sur un petit niveau qui repose sur l'exploration de multiples cachettes. La difficulté commence à se faire sentir et il sera difficile de poncer le niveau au premier tour. En revanche, l'univers de ce niveau est très bien travaillé et c'est probablement mon niveau préféré. Ensuite arrive l'avant-dernier niveau et à mon avis le plus difficile. Il s'agit de la baie du Rusty Bucket. Le Rusty Bucket en Cassio, c'est un vieux paquebot arrimé dans un port à l'eau bien sale. Ce niveau regorge de petits recoins explorés, possède une partie aquatique importante, mais en plus dur car l'eau est polluée et l'oxygène se consomme deux fois plus vite, et même à la surface. Après cette aventure industrielle, nos deux compères d'humeur bucolique se rendent au dernier niveau, le bois Click-Clock. Ce niveau est un bois lui-même divisé en quatre niveaux représentant chacun une saison. Il est principalement construit autour de la verticalité et sur la progression des saisons. Tout ceci terminé, il ne reste plus qu'à terminer le jeu de loi géant, idée originale mais extrêmement pénible à mon goût, et combattre physiquement Gruntilda pour venir à bout de cette jolie épopée. Le jeu est terminé mais la cartouche n'a pas livré tous ses mystères. Vous vous souvenez des révélations de fin et du système stop and swap. Certains ont littéralement décodé la ROM et ont trouvé les 7 objets concernés, 6 œufs et une clé de glace accessible par des codes. Malheureusement, ils ne trouveront leur utilité que dans Banjo-Tooie, mais entre les deux jeux, le système est abandonné suite à une révision du système par Nintendo. À l'heure actuelle, nous ne savons pas à quoi ils auraient pu servir, et c'est sur ce mystère que je vais terminer ma chronique. Donc merci de m'avoir suivi et écouté cette fois, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, et à la prochaine! Salut à tous!
Thank you.